Le thème de ce matin, c'est la vie éternelle. En es-tu sûr? En es-tu sûr? Oui? C'est timidement, c'est pas sûr. C'est... c'est une question très, très, très importante. L'année dernière, une personne qui n'est pas chrétienne m'a pris en voiture. Elle me parlait d'une personne décédée dans sa famille. Donc je l'écoute. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a frappé et attristé. Je n'ai pas peur de la mort. Je crois qu'il faut vivre en étant positif. Puis un jour, nous partirons. Waouh, quelle espérance! J'ai rencontré d'autres personnes qui sont très contentes de dire qu'un jour, elles feront une sieste éternelle. Même des athées sont capables de croire à un repos éternel. Comme quoi, quand on est athée, on a un peu de foi quand même dans quelque chose. Et j'aime bien ce qu'une personne disait, il faut beaucoup de foi pour être athée. Ces personnes n'ont aucun appui solide quand elles parlent de leur éternité. Mes amis, je crois que c'est de la folie de parler comme ces personnes. C'est de la folie d'oser continuer à vivre normalement dans un monde où il y a de la haine, des guerres, des atrocités, la mort. Nous ne pouvons pas vivre sans nous soucier de où nous irons après la mort. Ce n'est pas possible, normalement. Mes amis, je crois que c'est de la folie de parler comme ces personnes qui pensent que sieste éternelle, etc., sans appui solide. Je trouve que nous devrions vraiment nous soucier de cela. Comment est-ce possible d'être tranquille en mangeant en famille, en faisant des projets, des plans sur la comète, et ne jamais résoudre la question de l'existence de Dieu, de ce qui se passera vraiment après la mort et de l'éternité. Une des paroles qui m'a le plus secoué dans la Bible, c'est celle de Jésus dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Si un homme parvint à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Pour Jésus, s'enrichir des choses matérielles sur terre, être ultra riche, avoir les plus grands diplômes, accumuler les succès, avoir les plus belles voitures, les plus belles maisons, avoir les plus beaux enfants, les plus gentils, avoir tout ce qu'on veut, même ce qu'on ose rêver, n'apportera rien du tout à notre vie future après la mort. L'éternité est bien plus importante que de s'enrichir pour un jour tout perdre. Mes amis, ne restez pas tranquilles tant que vous n'avez pas une réponse solide sur qui est vraiment Dieu et comment vous pouvez avoir la vie éternelle. Osons nous poser ces questions plus que légitimes. Regardons maintenant la réalité en face. Quand nous lisons la Bible, elle nous révèle un problème terrible. Nous avons tous en nous le péché. À cause du péché, de notre rébellion envers Dieu et de toute nos désobéissances à sa volonté, nous méritons tous d'aller en enfer, un lieu loin de la présence de Dieu, où il n'y a plus de joie, plus de paix, un lieu terrible, sans joie. Nous avons donc besoin d'être pardonnés de nos péchés, d'être réconciliés avec ce Dieu qui nous a créés et de recevoir la vie éternelle. Bien plus, nous avons besoin de recevoir l'assurance de ces choses éternelles. Assurance de la vie éternelle. Avoir l'assurance de la vie éternelle, les amis, change tout. Change toute notre manière de vivre. J'ai personnellement reçu l'assurance de la présence de Dieu en moi. Et cela a changé mon existence, ma vision de la vie. Je suis tellement heureux d'appartenir à Dieu et d'avoir l'espérance de la vie éternelle. Je marche autrement, je vis autrement. Quand je regarde et je vois les atrocités qu'il y a autour de moi, quand je vois les gens souffrir, quand même dans ma famille il y a des souffrances, je me dis, il y a un espoir. Et c'est solide. Jésus-Christ est ressuscité, le pardon est acquis à la croix. Dans mon enfance, j'ai fait plein de mauvais choix. J'avais en moi un vide que je n'arrivais pas à combler. J'essayais de combler ce vide avec des plaisirs qui se sont transformés en dépendance. J'essayais de combler ce vide à travers des relations où je restais très égoïste et orgueilleux. J'essayais de combler mon vide en m'affirmant devant tous ceux qui ont une position d'autorité. Professeurs d'école, ils ont bien souffert cela. Ma mère encore plus. Et cela faisait que m'enfoncer toujours plus dans des conflits et dans l'insatisfaction. Après des années de larmes et de prières de ma mère, à 17 ans, j'ai vécu une expérience qui a comblé ce vide que j'essayais de sans cesse remplir. Dans un congrès missionnaire, pendant un chant de louange, un chant où tout le monde remercie Dieu, j'ai eu comme une révélation. J'ai vu mes nombreux péchés, combien j'avais offensé Dieu, combien je lui avais fait du mal avec toute ma manière de vivre. Et j'ai vu aussi son immense amour pour moi, ce Dieu qui est prêt à me pardonner de tous mes péchés. J'ai pleuré devant mes fautes, mais aussi devant l'immense amour de Dieu pour moi. Je lui ai demandé pardon. Ce jour-là, une immense paix a inondé mon cœur. C'était tellement palpable. J'ai reçu l'assurance de sa présence, l'assurance du pardon des péchés, l'assurance de la vie éternelle. Personne ne pouvait enlever cette assurance. J'étais une nouvelle personne. Tout le monde s'en est rendu compte. Cette présence, cette assurance de Dieu en moi, cette assurance de la vie éternelle, c'était tellement fort que quand je suis rentré à la maison, je parlais beaucoup de Dieu à ma mère. Je parlais tellement de Dieu à ma mère qu'on aurait cru que je voulais qu'elle se convertisse alors qu'elle l'était déjà. D'autres croyants n'ont pas vécu une expérience aussi forte comme moi, mais n'ont pas moins cette assurance de la présence de Dieu, de son pardon et de la vie éternelle. Mes amis, la vie éternelle est une chose si importante pour Dieu qu'il n'a pas juste voulu nous faire des promesses, nous donner la Bible, et puis il faut qu'on s'en sorte tout seul. Non. Il a aussi voulu nous en donner l'assurance, l'assurance de la vie éternelle, de sa présence en nous, en envoyant son Esprit, son Saint-Esprit, dans notre vie. Voici quelques textes qui soulignent cette pensée. Dans la Bible, dans Romains chapitre 8, verset 16, il est dit ceci, « L'Esprit Saint, lui-même, et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. » C'est un beau verset. Dans ce texte, l'Esprit de Dieu et notre esprit témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu, que nous lui appartenons. Ce témoignage pourrait être une voix forte ou un chuchotement à notre oreille. Tu es enfant de Dieu. Mais la plupart des croyants qui ont l'assurance de la vie éternelle ont plutôt reçu une conviction dans leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu. Une conviction qui est soutenue par la paix de Dieu. Quelque chose se passe. On n'arrive pas à l'exprimer, à l'expliquer. Mais il y a une conviction qui s'installe. Nous sommes enfants de Dieu. Et cette conviction s'intensifie quand nous vivons une relation avec Dieu, une relation avec d'autres croyants. Et quand nous partageons notre foi à ceux qui n'ont pas encore la foi en Jésus-Christ. Le témoignage de l'Esprit en nous, c'est aussi un amour grandissant pour Dieu, un désir ardent de vivre dans son intimité, une haine profonde pour le péché, un désir grandissant de vouloir plaire à Dieu, des fruits que l'Esprit nous pousse à vivre. La Bible parle de ces fruits dans Galates 5, versets 22 à 23. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, La joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et j'entends dans les témoignages des personnes qui ont vraiment fait la paix avec Dieu, ben, j'étais ultra colérique avant, mais les choses ont changé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, mais les choses ont changé. Il y a une progression en sainteté, ce sont de nouvelles personnes. Voici un autre texte qui parle de l'assurance de la vie éternelle. Dans sa première lettre, Jean a écrit ceci, dans 1 Jean 5, verset 13. « Je vous ai écrit cela, donc sa lettre, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Jean dit clairement qu'il a écrit sa lettre pour que les chrétiens soient convaincus qu'ils ont la vie éternelle. Et pour cela, il va donner plusieurs tests. Pour Jean, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, par exemple, nous croyons en Jésus, que Jésus est le Christ. Mais bien plus, notre vie est marquée par la repentance et la foi. Une lutte contre le péché pour vivre dans la sainteté. L'amour de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu et l'amour des autres croyants. Quand Jean dit tout cela, il ne dit pas qu'un chrétien devient parfait. Et lui-même contredit cette pensée quand il écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 10 et jusqu'au chapitre 2 verset 2, « Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Ici, Jean dit avoir écrit pour que les chrétiens ne pêchent pas. Vivre dans la pureté, l'amour pour Dieu et pour les autres, et obéir aux commandements de Dieu, c'est possible. En même temps, Jean reconnaît qu'il nous arrivera encore de tomber dans le péché. Parfait, nous ? Non. Mais si nous sommes enfants de Dieu, nous devrions grandir en sainteté. Jusqu'ici, nous avons vu que la Bible parle de l'assurance de la vie éternelle. Ça, c'est un thème biblique qui est présent. Mais j'aimerais maintenant souligner une pensée, que dans la foi, il y a un côté objectif et un côté subjectif. Le côté objectif de la foi, c'est qu'elle repose sur des faits. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Ça, c'est un fait. Nous avons aussi la Bible qui est la parole de Dieu. Et on sait tous que, en tout cas, j'espère tous, que la Bible a traversé les siècles et nous donne un témoignage historique solide. Dans la fin de l'évangile qu'il a écrit, Jean a même dit ceci dans Jean, chapitre 20, versets 30 à 31. Écoutez ces paroles. « Jésus a accompli, sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. » La foi a un contenu très solide. Jean nous invite à lire plus de 20 chapitres pour dire à la fin, j'écris pour que vous croyiez. La foi, c'est pas juste, ah, il faut juste croire. Enfin, c'est comme un saut dans le vide et puis faut juste croire. Il y a un contenu, les amis, un contenu solide. Et c'est sur ce contenu que Jean, après, dit, j'ai écrit pour que vous croyiez. C'est pas juste, crois au Seigneur Jésus et puis voilà. Non, lis l'évangile. Comprends ce que Jésus a fait pour toi. Ce qui est écrit là est pour que tu puisses comprendre, saisir qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait et enfin posséder la vie éternelle. Il y a aussi, j'ai parlé du côté objectif, mais il y a aussi un côté subjectif de la foi. Et le côté subjectif de la foi, On l'a dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui nous le communique. La foi nous est communiquée par le Saint-Esprit. Dieu lui-même, par son Esprit en nous, agit, nous donne une conviction de sa présence, que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons reçu la vie éternelle. Nous expérimentons son amour, sa paix, et commençons à désirer ce que Dieu désire et à vouloir vivre pour lui plaire. Mais attention, la vie éternelle n'est pas du tout quelque chose qu'on mérite ou qu'on peut mériter. Et regardez ce que nous dit la Bible. L'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Dans ce texte, Dieu nous a fait le cadeau de la vie éternelle par sa grâce manifestée en Jésus-Christ qui est mort à notre place et ressuscité. Dieu nous invite simplement à prendre ce cadeau par la foi. Maintenant, pour toi qui es venu ce matin, peut-être que tu te demandes, mais comment recevoir l'assurance de la vie éternelle? Comment on fait? Alors c'est très simple. Tu es prêt? On est go. Tu dois déjà reconnaître que Dieu est ton créateur. Il t'a créé pour que tu jouisses de sa présence, de son amour. Maintenant, regarde cette pièce. Certains s'en rappellent cette illustration que j'avais donnée. Le côté pile, c'est la pile de péchés que tu dois reconnaître. Les péchés sont en toi, sont en nous. Notre nature toute entière est imprégnée de péchés. Le péché, c'est bien plus que tricher, voler, mentir, tuer. La racine du péché, c'est notre rébellion envers Dieu, de choisir de vivre indépendamment de Dieu. C'est rejeter son autorité sur notre vie, alors qu'il a toute autorité, que notre vie dépend de lui à 100% et qu'il mérite tout notre respect et notre adoration. Regarde de nouveau cette pièce. Le côté face, c'est ce que tu dois faire. Te tourner vers Jésus-Christ. Croire que par sa mort et sa résurrection, tu peux recevoir le pardon de tes péchés. Une relation rétablie avec Dieu. Une nouvelle vie, la vie éternelle. En deux mots, repens-toi de tes péchés et crois en Jésus-Christ. Repens-toi de tes péchés et crois en Jésus-Christ. Tu ne recevras peut-être pas tout de suite l'assurance de la vie éternelle. Mais Dieu t'invite malgré tout à croire dans sa promesse de la vie éternelle. Et aussi à vivre dans son intimité. L'assurance que donne le Saint-Esprit viendra en marchant avec Dieu. La Bible dit dans Jean 3, 16, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Alors peut-être tu dis, mais ok, je n'ai pas l'assurance, en même temps, peut-être que j'ai déjà, parce que je fais le bien, il y a des bonnes choses que je fais, etc. Attention à la fausse assurance, qui est de penser que nous sommes sauvés alors que ce que nous affirmons n'a aucun appui biblique solide. On ne peut pas dire que nous avons la vie éternelle parce que nous avons des parents chrétiens. Nous sommes baptisés. Nous allons régulièrement à l'église. Nous donnons notre offrande. Nous faisons des dons aux pauvres. Nous connaissons la Bible et lisons. Et puis nous prions. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons quand même le bien. Non. Nous recevons la vie éternelle non sur la base de ce que nous faisons, mais sur la base des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Rien ne nous sauve, rien ne nous donne accès à la présence de Dieu, que Jésus-Christ seul. Je vais maintenant m'adresser aux chrétiens. Vous savez, l'assurance de la vie éternelle peut être ébranlée, diminuée et temporairement perdue pour plusieurs raisons. C'est peut-être quelque chose que vous apprenez ce matin, ou pour d'autres, vous êtes soulagés en entendant cela. Parce que qui ose dire, écoutez, j'ai des doutes concernant la vie éternelle. Ce n'est pas tous les chrétiens qui osent le dire, en groupe de maison, dans une relation. Gardons ces choses pour nous et nous combattons seuls. Nous allons voir les raisons dans quelques instants. Mais perdre l'assurance de la vie éternelle, ce n'est pas perdre la vie éternelle. Je le redis. Perdre l'assurance de la vie éternelle, ce n'est pas perdre la vie éternelle. Ce n'est pas parce que je perds pour un temps l'assurance de la vie éternelle que j'ai perdu mon salut. Et il ne faut pas confondre l'un et l'autre. Ce n'est pas... Donc, je peux avoir cru en Christ, marcher en chrétien et être dans des temps de doute. Ça fait aussi partie de la marche chrétienne. En tout cas, si vous regardez tous les, entre guillemets, héros de la foi, comme on le dit, je dirais plutôt c'est le héros, c'est Dieu, dans ces personnes. Mais vous remarquerez qu'ils ont tous eu des doutes. Tous. Voici les raisons de la perte de l'assurance de la vie éternelle dans la vie des croyants. Certains chrétiens se battent avec des doutes concernant leur vie après la mort. Ça commence là. Je l'ai un peu dit déjà, c'est normal. D'une certaine manière, c'est encourageant d'avoir des doutes, car cela veut dire qu'il n'y a pas d'absence de foi. Je ne sais pas si tu le sais, mais avoir des doutes font pleinement partie de la vie chrétienne. Nous savons aussi, et ça c'est important d'entendre, que Satan lui-même nous attaque pour que nous ayons sans cesse des doutes. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous marchions dans notre vie avec Dieu avec tout le temps des doutes, sans cesse des doutes. Pour sortir du doute, il faudra continuer à croire dans les promesses de Dieu concernant la vie éternelle et marcher avec lui. Et si vous luttez dans des doutes, que vous êtes encore dans cette lutte, ne restez pas seul, mais allez vers une personne de confiance, mature dans la foi, pour vous aider. Il est important de ne pas rester seul quand nous vivons de tels doutes. D'autres croyants n'ont pas l'assurance de la vie éternelle parce qu'ils vivent dans le péché sans se repentir. Ils sont loin de Dieu et de sa présence. Si tu as laissé le péché régner dans ta vie, reviens à Dieu. Pour retrouver l'assurance de la vie éternelle, Dieu t'invite tout simplement à faire ce que tu as déjà fait avant. Te repentir de tes péchés, t'en détourner et croire en Jésus-Christ pour recevoir son pardon. L'assurance de la vie éternelle peut aussi se perdre quand on a du mal à croire que Dieu puisse encore nous pardonner. Mais la Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons, reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Nous devons confesser notre péché pour être de nouveau pardonnés. Les amis, c'est encore possible parce que Satan aime bien garder des personnes dans la culpabilité parce qu'elles sont tombées plusieurs fois et elles disent « Tu es un mauvais chrétien, Dieu ne te pardonnera jamais parce que tu continues à tomber encore dans les mêmes péchés. » Si vous croyez à ça, il a trop bien prêché. Ne restez pas dans cela. Croyez dans la promesse de Dieu, de son pardon. L'assurance de la vie éternelle peut aussi se perdre à cause d'un manque d'engagement envers Dieu et envers son Église. Ce manque d'engagement se manifeste par très peu de relations avec Dieu. On prie de temps en temps. On est des chrétiens, parfois j'appelle ça chrétiens du dimanche ou chrétiens de Pâques et Noël. Hein ? On a des personnes comme ça qui viennent juste comme cela et qui n'ont pas vraiment de relation avec Dieu ou juste le Dieu qui est celui qui solutionne mes problèmes. À chaque fois que je pense à lui, c'est quand il y a des problèmes. J'ai un problème. Dieu, aide-moi. Donc, aucune relation, c'est juste une route de secours. D'autres aussi Quand je parle de manque d'engagement, ça peut être un manque de croissance dans la foi, de relation avec d'autres croyants, où nous laissons peut-être certains conflits sans vraiment les régler, en refusant de vivre le pardon, la réconciliation. Dans ce cas aussi, nous devons nous repentir devant Dieu, nous détourner de nos négligences spirituelles et changer de conduite en demandant à Dieu son aide. Faisons très attention à une chose. Si notre vie continue à être caractérisée par le péché et par le non-pardon, sans aucune repentance, il y a un gros problème au niveau de notre foi. Cela peut même prouver qu'en fait, nous n'appartenons pas vraiment à Dieu. Certains chrétiens ont du mal aussi à avoir l'assurance de la vie éternelle parce qu'ils pensent que leur conversion devrait être spectaculaire ou qu'ils désirent pouvoir dater le jour de leur rencontre avec Dieu. Mais j'ai pas encore... Tu parles de... Tu as vécu ça, Manu, c'était énorme ton témoignage. Mais moi, j'ai pas vécu ça. Et donc, elles s'attendent à ça pour dire, c'est bon, j'ai l'assurance. Il est important de rappeler que Dieu atteint nos cœurs de différentes manières. Certains vivront quelque chose de fort, pendant que d'autres vivront quelque chose de moins fort, mais plus progressif dans leur relation avec Dieu. Et donc, ils pourront peut-être pas dater, mais ils vont avoir un cheminement avec Dieu qui va petit à petit les amener à l'assurance du salut. La conversion des uns n'est pas moins réelle que celle des autres. D'autres chrétiens ont du mal à avoir l'assurance de la vie éternelle parce qu'ils comparent leur vie spirituelle avec d'autres. Voyant certains plus avancés dans leur foi, ils se disent qu'ils ne sont pas assez spirituels pour être sûrs de leur vie éternelle. Mais non, mais lui, il prie trop bien, il est trop... Ah ! Je ne dois pas avoir la vie éternelle puisque moi, je suis pas à ce niveau-là. Ne nous comparons pas, les amis. La vie éternelle vient de Jésus-Christ et non du niveau de foi ou de maturité spirituelle que nous avons aujourd'hui. Enfin, ce sera le dernier point, il est possible de perdre l'assurance de la vie éternelle ou de la présence de Dieu dans des temps difficiles. Le psalmiste, dans les psaumes, avait parfois l'impression que Dieu l'avait abandonné à cause de difficultés, de grosses difficultés. Dans ces moments, nous avons besoin du soutien des autres croyants dans la prière et de nous rappeler sans cesse les promesses de Dieu pour retrouver notre assurance. Et cela n'est pas forcément simple. Mes amis, nous nous maintiendrons dans l'assurance de la vie éternelle en croyant dans les promesses de Dieu, en vivant notre relation avec Dieu par la lecture de la Bible, la prière, la louange, en confessant nos péchés quand nous sommes tombés, en vivant pour plaire à Dieu par amour et gratitude et en servant notre prochain et enfin en vivant dans la famille de Dieu. En fait, c'est en vivant à fond ma relation avec Dieu et en faisant sa volonté que mon assurance de la vie éternelle grandira. Cette vie de Dieu en moi confirme que je lui appartiens vraiment, qu'il est à l'œuvre en moi. Mais les œuvres que je fais ne sont pas des œuvres qui me permettent de dire « je mérite le paradis ». Je dois baser l'assurance de mon salut sur les vérités objectives de la parole de Dieu, sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Avant de vous inviter à un temps de prière, j'aimerais finir avec cette magnifique promesse de Jérémie, chapitre 29. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. » C'est fort, les amis. Dieu a pour toi, pour moi, des projets de paix et non de malheur, afin de nous assurer un avenir plein d'espérance. Ce qui est encourageant, c'est que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ceux qui le cherchent vraiment. Quelqu'un me disait, je ne crois pas en Dieu parce qu'il ne s'est pas montré à moi. Je lui ai répondu, si Dieu est comme nous, alors tu as totalement raison. Mais si Dieu n'est pas comme nous, tu as totalement tort. Et j'ai posé cette question à cette personne. Est-ce que tu t'es déjà adressé à Dieu pour qu'il se révèle à toi ? As-tu déjà cherché Dieu sincèrement ? Il m'a répondu, non. Alors je lui ai dit, je te mets au défi. Cherche Dieu de tout ton cœur. Fais appel à lui, non juste pour satisfaire ta curiosité, mais avec un cœur sincère, et il se révélera à toi. C'est ce même défi que je lance ce matin à ceux et celles qui n'ont pas encore dit oui à l'amour de Dieu, qui n'ont pas l'assurance de la vie éternelle. Mon ami, Dieu est vivant. Il t'aime, il veut se révéler à toi. J'aimerais vous inviter maintenant à prier avec moi. Si vous voulez venir à Dieu et recevoir l'assurance de la vie éternelle et de sa présence. Dieu vous connaît parfaitement. Il voit vos pensées. Il vous aime. Il vous a vu quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Il vous a formé en ayant un objectif en tête. Il vous a fait pour jouir de son amour et avoir un avenir fait d'espérance. À ce moment précis, un millier d'années avant que vous soyez nés, vous ne soyez nés, Dieu savait que vous seriez présent à ce culte ce matin. Et Dieu vous dit, je t'aime. Tu comptes pour moi. Et je veux que tu me connaisses. Pour vous aider à rencontrer Dieu, je vais prier et vous pouvez répéter cette prière. Après moi, elle va s'afficher maintenant. La prière que nous allons prendre maintenant n'est pas une formule magique, quelque chose de magique, mais elle vous permettra de commencer à vous approcher de Dieu pour qu'il vous offre son pardon, la vie éternelle et son intimité. Prions maintenant. Dieu, merci de m'avoir créé et de m'aimer. C'est vrai, je t'ai ignoré. J'ai suivi mon propre chemin. J'ai péché contre toi. Je réalise maintenant que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande de me pardonner et de purifier mon cœur. Jésus, merci d'être mort sur la croix pour moi. S'il te plaît, aide-moi à mieux comprendre ce que tu as fait pour moi. Sur la base de ce que j'ai compris ce matin, je veux te suivre dès maintenant. S'il te plaît, viens dans ma vie. Fais de moi une personne nouvelle. Je prends par la foi le cadeau que tu me fais d'une relation avec toi et de la vie éternelle. Donne-moi l'assurance de ta présence et de la vie éternelle. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour les projets que tu as formés pour moi, pour le reste de ma vie. Amen. Nous allons finir avec un chant qui dit « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » Pour ceux qui ont l'assurance de la vie éternelle, je sais que vous chanterez ce chant avec force. Chantons ce beau chant.